Vous écoutez CPU sur Radio Éphémère. Et pour parler de sécurisation informatique, au moment où l'on commence seulement à évaluer les pertes provoquées par le ver ou WannaCry, nous avons la chance de pouvoir interviewer un white hat à chaud. Et quand je dis à chaud, c'est que nous enregistrons lundi soir après un week-end rude en suspense pour tout le monde, et pas que pour les journalistes politiques. Nous recevons donc Eric De Toisien, spécialiste en sécurité informatique offensive, cofondateur et CEO de Ambionics Security, conférencier sur la sécurité offensive, et j'oserais pas le titiller puisqu'il fait aussi un sport de combat physique. Monsieur De Toisien, bonsoir, et enfin non, bonjour, puisqu'il est 11h du matin au moment où l'on diffusera. Si je puis me permettre, et désolé d'être direct d'entrée, quelle a été votre première pénétration que vous aviez subie, si je puis me permettre ?
Bonjour tout d'abord. Alors, j'ai commencé déjà pas par subir, mais plutôt par faire subir, puisque j'ai commencé il y a maintenant pas mal d'années. Mais des pentesters, mmh. où mon rôle était effectivement de chercher des vulnérabilités sur les systèmes d'information des différentes sociétés qui faisaient appel à nos services. Donc ça, pendant quelques temps, avant de passer à mon tour de l'autre côté de la barrière pour justement tenter de sécuriser le système d'information de la société pour laquelle je travaillais.
Est-ce que cela veut dire que vous avez aussi un petit peu involontairement titillé avec la loi ?
Non, jamais. Jamais, jamais. Pour la simple et bonne raison que ça a toujours été fait dans un cadre professionnel, donc encadré contractuellement, bien évidemment, avec des clients, ou dans le cadre, je dirais, de recherche personnelle sur des systèmes, évidemment, qui m'appartenaient.
D'accord, ok. Donc, on va bien expliquer. Vous êtes purement ce que l'on appelle un white hat, c'est-à-dire un hacker parfaitement éthique. Comme je l'ai dit, on a passé la plupart des gens dans l'informatique ont passé un week-end difficile, soit pour réparer le PC familial pendant le week-end, soit pour réparer toute une flotte en entreprise. En regard de WannaCry, est-ce que la sécurité informatique est finalement vue comme une assurance tout risque, c'est-à-dire que les décideurs n'acceptent d'ouvrir leur chéquier que quand frappe une catastrophe ?
Malheureusement, en général, si ça ne déclenche pas des achats, on va dire que ça va les accélérer. Mmh. Ça accélère la prise de conscience. Donc ça dépend évidemment du niveau de maturité de l'entreprise au sens large et des personnes qui la gèrent. Mais c'est vrai qu'on peut constater, alors peut-être malheureusement, mais bon, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Quand il se passe quelque chose de grave, surtout de médiatiser, ce qui est le cas avec WannaCry, hein, bien évidemment, puisque des problèmes de sécurité, il y en a tous les jours, des compromissions, il y en a tous les jours, mais là, il s'avère que comme c'est quelque chose d'assez massif qui a été relayé dans la presse généraliste, hein, un grand public, hein, aux 20h. Hein.
Oui, on va y venir justement sur la médiatisation et la réelle portée en fait, de cette attaque.
C'est plus ça en fait. Hein. Donc, les dégâts sont encore à évaluer, il semblerait, mais l'attaque est clairement une attaque de grande ampleur. Néanmoins, je dirais, ça va atteindre beaucoup plus les entreprises pour la simple et bonne raison, c'est que même les gens qui ne sont pas dans l'informatique ou encore mieux dans la sécurité, c'est-à-dire n'importe qui, va avoir entendu parler de cette attaque, contrairement à tout ce qui se passe en dehors de tout ça, qui est tout aussi grave des fois, quoi. Mais oui, effectivement, donc les décideurs au sens large du terme, qui sont pas toujours techniques, bien évidemment, vont en avoir entendu parler soit un déjeuner familial, soit aux 20h, et ils reviennent le lundi s'ils n'ont pas déjà appelé leur service technique le week-end pour demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis protégé, parce que mon beau-frère a été attaqué, et l'entreprise de mon copain du CAC 40 qui a été aussi attaqué, qu'est-ce que vous faites, où on en est. Donc dans un certain sens, c'est toujours bénéfique pour essayer de faire grimper un peu le niveau de sécurité.
Dans le secteur de la sécurité informatique, il faut quand même reconnaître que malheureusement, une partie du discours commercial joue essentiellement sur la peur. On pense évidemment à la litanie Bene Gesserit dans le roman Dune. Hein, c'est-à-dire que la peur paralyse et donc fait perdre un petit peu le sens commun. À force de crier au loup, est-ce que le secteur de la sécurité informatique n'a-t-il pas désensibilisé, en fait, les acteurs en SWAT ?
Oui, je dirais oui et non. C'est un peu une réponse un peu bizarre, mais effectivement, les problèmes de sécurité sont une réalité. Hein. Il y a des attaques. C'était encore très compliqué il y a 15 ans d'expliquer ça, puisque c'était dans le domaine peut-être même limite de la science-fiction, mais aujourd'hui, c'est avéré. Quasiment chaque entreprise a subi une attaque réelle. Néanmoins, on commence à se dire, on va tomber un peu dans le travers en disant, on est foutu, on peut plus rien faire. Les types sont tellement forts que quoi qu'on fasse, de toute façon, ils arriveront à nous saccager notre système d'information. Donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une réalité. Alors des fois, il faut remettre ça juste dans la réalité et ne pas tomber, je dirais, dans une quelconque science-fiction ou quelque chose qui se rapprocherait plus de films hollywoodiens où on se retrouve avec des types impossibles à attraper, qui arrivent à rentrer partout.
Mettent des gants devant leur PC, une cagoule sur la tête.
Voilà, c'est exactement. Et puis qui sont cachés, et puis qui partent ensuite, qui détruisent leur PC. Voilà. Donc, il y a des gens très compétents des deux côtés de la barrière. Il y a vraiment des attaques. Ça, c'est une réalité. Après, c'est vrai que c'est un peu le jeu du business au sens large. Hein. À partir du moment où vous avez un ennemi en face et vous avez quelque chose à vendre, c'est beaucoup plus facile de justifier l'achat d'un quelconque service ou d'une quelconque boîte qui pourra sécuriser. Ce qui ne remet pas en cause, bien évidemment, l'efficacité de certains services. Mais voilà, c'est plus facile de dire voilà. Et en général, si vous regardez sur vos profils LinkedIn ou sur Twitter, vous avez toujours finalement les gens qui vont décrire l'attaque. Et très très peu de temps après, vous avez les gens qui vont vous proposer des solutions et dire ah bah voilà, vous voyez bien, grâce à notre solution miracle, vous êtes protégé et nos clients qui avaient notre solution n'ont pas du tout été impactés par WannaCry.
C'est un peu ce que me disait d'ailleurs justement Marc Ollagnier, qui est du service prévisiologie de la météo du net dans cette émission, mais qui est aussi un journaliste sécurité informatique assez reconnu. Il m'a dit ça a été un week-end infernal parce que les attachés de presse lançaient à tour de bras des communiqués de presse avec des fois des trucs qui n'avaient rien à voir, en disant que grâce à eux, il y aurait eu de la protection.
Voilà,
c'est un peu dangereux. D'un autre côté, quand même, il faut quand même reconnaître que dans les acteurs industriels, que ce soit la toute petite PME jusqu'à parfois les administrations, on a des outils métiers qui ont été développés des fois depuis plus d'une dizaine d'années avec une maintenance quasi inexistante, des machines-outils qui utilisent des vieux protocoles qui ne sont supportés que par des vieux OS. Et d'ailleurs, justement, c'était le cas de la faille WannaCry, puisqu'elle utilisait en fait une vieille version d'un protocole d'échange. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas clairement un manque de responsabilité vis-à-vis justement des services informatiques en question, ou une inconscience totale ?
Je dirais que ça dépend des profils, parce que comme vous le dites, finalement, il y a des systèmes qui vivent depuis très très longtemps. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir été du côté client pendant des années, c'est-à-dire vous avez la réalité de la production informatique qui fait que vous n'avez pas forcément le même regard que quelqu'un qui va venir, et je suis bien placé pour le savoir, qui va dire, qui va vous faire un audit, qui va vous dire « Ah, vous avez des failles de sécurité partout, c'est pas bien, vous vous en fichez de la sécurité, il faut tout patcher. » Mais après, la réalité de la prod, c'est pas ça. Quand vous êtes du côté de la prod, vous savez très bien qu'on peut pas arrêter un service comme ça. Il y a toujours un risque sur certains systèmes, comme vous le dites, anciens, quand vous décidez de les patcher. Donc voilà, il y a une réalité qui fait que c'est pas si facile que ça. Et corriger, patcher, mettre en place des solutions de sécurité, c'est indispensable, mais c'est très loin d'être facile, surtout pour gérer des systèmes d'information qui vivent depuis très longtemps avec des couches et des surcouches. Donc ça, c'est un point important. Après, il y a des entreprises qui ont, des moyens, qui sont à jour, qui ont les moyens de faire ça, et effectivement, qui vont peut-être être beaucoup plus laxistes et se dire, pourquoi ça m'arriverait et ça n'arriverait pas aux voisins. Et après, il y a des entreprises qui, elles, sont bien conscientes, font ce qu'il y a à faire, et puis, des fois, avec l'actualité, malheureusement, se font rattraper un petit peu parce que ils n'arrivent malheureusement pas à être aussi rapides, malgré tous leurs efforts, que les attaques et les vulnérabilités qui vont sortir comme ça du jour au lendemain, quoi. Parce que quand vous avez un parc de trois machines à mettre à jour, ou que vous en avez des dizaines de milliers au travers... au travers la planète, je dirais, c'est pas du tout la même histoire, quoi. Donc voilà, ça dépend vraiment. La prise de conscience dépend bien évidemment des décideurs, du secteur. Et après, il y a la réalité du terrain, quoi. Malgré le fait que vous mettiez et des moyens et tout ce qu'il faut, bah, des fois, ça passe au travers parce que malheureusement, il y a une surface d'attaque qui est extrêmement large et diverse, quoi.
Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est de voir comment réagissent le grand public ou même des responsables d'entreprise quand on leur parle en fait des risques sur la sécurisation, de compromission qui peut arriver. La première remarque qui ressort, c'est « Oh, mais ça n'arrivera qu'à un autre, ça m'est jamais arrivé. » Est-ce que la loi de la faible probabilité est-elle toujours valable de nos jours ?
Non, je pense pas, parce qu'effectivement, quand on se dit pourquoi il m'attaquerait moi, peut-être, effectivement, pourquoi il s'attaquerait à vous, ça c'est de moins en moins vrai, de mon point de vue, hein. Peu importe ce que vous faites, étant donné qu'il y a effectivement et des attaques, je dirais, de personnes mal intentionnées, et puis il y a peut-être des attaques de concurrents d'autres pays. Donc vous intéressez toujours quelqu'un. Mais malgré tout ça, en admettant que vous restiez sous les radars, que vous fassiez des choses qui ne soient pas si intéressante que ça, le peu de ressources que vous avez pourra intéresser des pirates pour être réutilisés, pour par exemple, miner du Bitcoin ou être un relais pour pouvoir attaquer d'autres systèmes. Mm-hmm. Et vous êtes tout simplement, je dirais, pas un système d'information ciblé, mais vous faites partie de la masse. Donc il y a des attaques comme ça qui sont opportunistes, qui vont essayer d'attaquer tout ce qui bouge. Et bien, si vous êtes dans ce qui bouge, et bien, malheureusement, vous êtes dedans. Il suffit que votre adresse IP soit dans une plage IP qui va être attaquée, je dirais, limite au hasard ou parce que ça fait partie de tout ce qui doit être attaqué, bah vous êtes dedans. Pas parce que c'est vous, mais parce que vous êtes dans la cible parmi des dizaines de milliers d'autres adresses IP, quoi. Donc le fait de se dire non, moi je suis pas intéressant, on m'attaquera jamais, c'est pas vrai. Maintenant, je dirais, scanner Internet, des gens l'ont déjà montré, c'est loin d'être très compliqué. Donc, faire des attaques comme ça sur des systèmes exposés ou balancer des adresses ou des attaques sur des adresses email, vous avez une probabilité non nulle d'être dedans quand même, quoi.
D'un autre côté, le syndrome PALC, proxy à la con, a rendu quand même la sécurité rédhibitoire pour certains dans les grandes entreprises. Il est pas rare d'ailleurs de voir dans les grandes entreprises des cadres dirigeants, voire même les directeurs eux-mêmes, voir jusqu'aux salariés arriver avec leur portable, leur PC et en fait ruiner un petit peu le concept de sécurité.
Oui, c'est effectivement ce qu'on a vu finalement ces dernières années avec l'arrivée des tablettes, des téléphones portables, des smartphones, pour dire des mots à la mode. Et puis après aussi se dire maintenant vous avez un ordinateur portable, vous pouvez travailler entre guillemets n'importe où, ça arrange un peu tout le monde. Mais voilà, si encore une fois, c'est des choses qui vont être prises en compte dans peut-être des grandes entreprises, vous dire on va vous confier un ordinateur portable, mais on va faire ce qu'il faut pour vous éviter de faire n'importe quoi. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui ont peut-être moins conscience, moins de moyens. Ils vont vous donner un portable, pas forcément sécurisé. Vous allez chez vous faire des choses perso avec cet ordinateur. Vous allez ramener des saloperieware et vous allez ramener sur le système d'information de l'entreprise. Et ça peut être aussi bête qu'une clé USB aussi. Hein. C'est tout aussi efficace. Hein.
C'est quand même assez affolant aussi de voir que des fois, des professionnels qui sont payés pour sécuriser leur entreprise et tout ça, apportent une sécurité qui n'est pas optimale et que, à la limite, même les salariés eux-mêmes ont une meilleure sécurisation chez eux.
Oui, alors après, ça, c'est toujours pareil. On revient sur l'utilisation de l'outil informatique et des moyens. Donc, sur votre ordinateur perso, j'aurais tendance à dire, si vous êtes conscient de ce que vous faites et si vous avez un minimum de connaissances, finalement, vous allez réussir avec un antivirus et surtout, on va dire, une hygiène informatique.
Ou hygiène numérique, comme dit Genma, qui organise des crypto-parties sur Paris. J'aime beaucoup
l'expression. Voilà, c'est ça, une hygiène numérique irréprochable. Hein. Au final, si vous ne faites pas n'importe quoi, vous limitez vos risques. Hein. Si vous amusez à faire un peu sur l'autoroute, vous risquez d'avoir des problèmes. Quoi.
Oui,
là, c'est un peu ça. Quoi. Donc, c'est un peu le même principe. Quoi. Si vous passez votre temps à télécharger des softs sur des sites un peu louches, aller sur des sites tout aussi louches, récupérer tout n'importe quoi, bah voilà, hein, c'est ça va rester poli, mais c'est voilà, c'est vous allez taper dans tout ce qui bouge et bah vous allez attraper les maladies qui vont avec, hein. Donc voilà, après dans l'entreprise c'est un peu pareil, quoi. C'est ça dépend aussi à qui vous confiez la sécurité de vos systèmes d'information, je dirais, enfin c'est un peu comme dans tous les métiers, quoi, hein, la qualité, je dirais, la compétence de l'entreprise et puis des produits, quoi. Des produits qui eux-mêmes peuvent être finalement une faille de sécurité en tant que telle, étant donné que ça reste des logiciels, hein, de l'informatique, qui ont leur propre vulnérabilité. Donc des failles sur des systèmes de sécurité, il y en a tout autant que sur des systèmes informatiques qui ne sont pas des systèmes dédiés à la sécurisation du système d'information.
Oui, parce que justement, puisqu'on y parle, les antivirus, en fait, leur mode de fonctionnement est de bricoler énormément le système d'exploitation de l'ordinateur. Des fois, d'une manière qui n'est pas très, 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 très clean, même pour, dans les concepts de développement, on commence à voir de plus en plus des cas où l'antivirus lui-même sert de porte d'entrée. En plus, pendant très longtemps, les développeurs de virus testaient en fait l'application contre les antivirus. Maintenant, est-ce que les antivirus sont devenus eux-mêmes extrêmement dangereux?
Il y a les deux cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours vous débrouiller pour que votre saloperieware soit indétectable par les antivirus d'aujourd'hui, la plupart peut-être. En tout cas, les gens qui développent ça essayent de les rendre indétectables pour qu'ils puissent survivre le temps possible. Mais après, évidemment, l'antivirus, tout ce qui est solution endpoint, comme on dit maintenant, mais ça reste des solutions en agent qu'on installe sur le poste. Au final, ce sont des logiciels avec des privilèges extrêmement élevés pour pouvoir accéder à beaucoup d'informations sur le système. Et mécaniquement, bah, ils vont analyser des fichiers, ils vont analyser des protocoles, ils vont analyser tout ça. Donc, il y a beaucoup de parseurs. Et en général, on se retrouve avec pas mal de vulnérabilités. Donc, depuis que je suis dans la sécurité, depuis pas mal d'années maintenant, il y a toujours eu des vulnérabilités dans les antivirus, ou dans les logiciels au sens large, donc les antivirus, que ce soit des choses que vous installez sur votre poste, des passerelles, des appliances que vous mettez sur le réseau, sont aussi vulnérables. Et pour preuve, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une vulnérabilité extrêmement critique qui a été publiée par le projet Zero de Google, qui portait sur Windows Defender. Donc voilà, moi je connaissais ça, enfin il y a 20 ans, 15-20 ans, on avait des vulnérabilités sur des antivirus, et ben voilà, on est en 2017, il y en a toujours et il y en aura toujours. Donc effectivement, ça, des fois, le point d'entrée, c'est le système de sécurité, de sécurisation.
Vous écoutez CPU sur Radio FMR et nous retrouvons donc dans l'immédiat Eric de Toisien, spécialiste en sécurité offensive et patron et fondateur de Ambionic Security. Votre activité, donc, monsieur de Toisien, c'est le pen testing, d'utiliser les outils de piratage pour évaluer la sécurité. En soit, comment on peut expliquer à un client qu'on va lui dire bah, on va vous pirater?
Ah justement, on va lui dire que c'est pour son bien au final.
Il faut mieux que ça. On va vous mettre une claque, c'est pour votre bien.
C'est ça, ça vous entraîne. Mais bon, c'est un peu comme les sports de combat. On va vous dire, on va vous donner un coup de pied dans les parties, mais vous avez une coquille. Donc finalement, c'est pas très grave. Vous saurez un peu ce que ça fait, quoi. Et surtout, on va vous apprendre à contrer ça. Mais non, effectivement, c'est au début cette approche. Enfin, maintenant, c'est quelque chose qui est évidemment rentré dans les mœurs entre guillemets. Mais c'est voilà, on leur dit le but du jeu, c'est de trouver, je dirais, le maximum de vulnérabilités avant les autres, quoi. Donc, et avant les autres, avant les bad guys. Et parce que nous, évidemment, on n'en fera rien entre guillemets, à part vous montrer où est la vulnérabilité, comment on a fait et comment faudra faire pour éviter que ça se reproduise. Le méchant, lui, bah, il va la trouver, il va pas vous le dire et en plus, il va l'utiliser à votre insu et récupérer tout ce qu'il a récupéré sur votre système d'information. Donc, encore une fois, c'est pour votre bien. C'est de un peu de voir si vous n'êtes pas malade et si vous êtes malade, comment vous soignez, quoi.
Le pen testing, donc cette activité de tester en fait est-ce que un réseau informatique de l'extérieur, c'est désormais une activité qui est très encadrée en France, ce qui veut dire que n'importe qui ne peut pas improviser un audit de sécurité sans de réels risques juridiques, même si les deux parties sont d'accord. Alors, le fait que le pentesting soit interdit aux non-professionnels bloque-t-il l'accès à la compétence nécessaire à ceux qui veulent apprendre et ceux qui pourraient s'investir dans cette profession?
Non, parce que maintenant, il y a toujours eu la possibilité, je dirais, d'apprendre par soi-même et puis, de monter son propre réseau. C'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. On monte son réseau, on monte son ordinateur, on regarde et puis on teste sur son réseau, quoi. Donc, il y a toujours cette capacité. Et puis, maintenant, avec plusieurs aspects, outre le fait qu'il y ait maintenant sur Internet une quantité d'informations incalculable sur la sécurité et puis plein d'autres sujets bien évidemment, mais en particulier sur la sécurité puisque c'est de ça dont on parle. Il y a ces aspects qui font que maintenant la connaissance est accessible à qui veut bien l'acquérir. Il y a les systèmes de machines virtuelles où maintenant vous avez la possibilité de vous monter des systèmes, on va dire, extrêmement facilement, sans être obligé d'avoir 50 machines hardware. Vous avez votre petit PC, votre petit ordinateur portable, votre système de virtualisation, et puis vous allez monter vos machines virtuelles, et puis vous allez jouer avec tout ça. Après, il y a d'autres systèmes qui sont apparus ces dernières années. J'ai tous les sites de challenge où le but du jeu, c'est dans des conditions simulées d'essayer de résoudre, je dirais, des énigmes informatiques, donc de trouver des vulnérabilités dans des systèmes qui ont été développés dans ce sens. Donc aujourd'hui, il y a vraiment tous les moyens, je dirais, pour apprendre en conditions réelles, entre guillemets, tout ce qu'il y a à apprendre sur la sécurité, quoi. Donc il n'y a pas de limite, et puis à partir de là, dès que vous avez l'opportunité de rentrer sur le marché du travail avec quelconque compétence, parce que vous avez participé à des challenges publics, que vous avez remporté quelques victoires qui ont été publiées, que vous avez développé des outils, que vous avez mis à disposition, que vous avez un petit blog ou ce genre de choses, bah, finalement quand vous allez rentrer sur le marché du travail, votre employeur, en l'occurrence une société comme la nôtre, on va voir ce que vous êtes capable de faire, on va vous tester, on va dire, nous on a des machines, on a des questionnaires, vous allez essayer d'y répondre, vous essayez de pirater une machine qu'on va vous mettre à disposition, et puis voilà, on verra un peu ce que vous valez. Et puis ensuite, quand on est dans le monde professionnel, évidemment tout ça c'est encadré contractuellement, avec des droits et des devoirs de chacune des parties, où finalement les attaques, l'origine des attaques est bien identifiée, est connue du client, et évidemment à la fin on lui dit tout ce qu'on a fait, comment on a fait et ce qu'on a trouvé.
On peut parler d'un autre côté de criminalité organisée pour ce qui est justement des bad guys, on peut même parler de mafia. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez des repentis?
Non, on peut pas dire ça. Les repentis, ça fait un peu, c'est le titre d'un film, quoi. Mais non, après, il y a toujours des gens, effectivement, qui ont été sur la ligne, quoi, qui des fois l'ont un peu franchi, quoi, pour voir, effectivement, confronter un peu leurs compétences à la réalité, quoi. Mais on va dire que ça s'arrête là.
Vous-même, vous avez pris la pilule rouge?
Non, moi
c'était la blue pill, pardon, excusez-moi. On mettra le lien sur le site cpu.pm pour comprendre la blague.
Je prends aucune substance illicite rouge bleu, donc
même pour évader des machines virtuelles, d'accord.
Je reste du bon côté de la ligne, mais voilà, il y a quelques années, je publiais principalement sur des techniques d'attaque, donc des chevaux de Troie furtifs, tout ce qui était attaque, je publiais des exploits, voilà. Mais tout ça fait dans un environnement personnel et contrôlé.
Bien évidemment. On va parler justement du côté vraiment obscur, je veux dire, des failles de sécurité, à savoir qu'il y a un marché, entre guillemets, c'est pas évident d'en parler, des failles de sécurité non décrites, ce qu'on appelle les ZDE, les Zero Day Exploits. Comment est ce marché et quels en sont actuellement les principaux protagonistes?
Alors effectivement, ça c'est le Zero Day, il y a très longtemps, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était un peu une licorne ou un poney magique, ça n'existait pas. Puis finalement, on s'aperçoit effectivement que ça existe, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Et il y a un marché, effectivement, donc à différents niveaux. Donc il y a le marché, on va dire le marché noir, où finalement si vous trouvez quelque chose, vous allez sur des forums spécialisés pour essayer de vendre votre vulnérabilité au plus offrant. Ensuite, il y a des systèmes qui se sont mis en place pour pouvoir acheter, je dirais, les vulnérabilités de manière entre guillemets légale, sachant que leur utilisation n'est pas forcément bien identifiée, mais il y a des sociétés à l'étranger qui vont, enfin aux États-Unis, qui vont vous permettre de vendre votre vulnérabilité, déjà dans un cadre légal en tout cas, à des prix dépendants de la qualité de la vulnérabilité au sens large, hein, c'est-à-dire ça dépend sur quoi vous l'avez trouvé, quelle est l'ampleur et le contexte de cette vulnérabilité, est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé à distance, facilement, etc. Et vous allez pouvoir vendre cette vulnérabilité. Donc il y a un marché, comme tout, hein, il y a un marché illégal et il y a un marché légal sur ces zéro day.
On parlait justement donc du virus WannaCry, donc qui est basé sur une vulnérabilité dans le protocole SMB, dans la version 1, qui d'ailleurs était déphasée déjà depuis 15 ans. C'est une ZDE qui a été achetée et stockée par l'agence américaine, la NSA, et qui a été dévoilée suite à un piratage justement d'un des serveurs de la NSA. En soit, est-ce que l'on doit considérer les ZDE comme des armes numériques et donc interdire leur exportation, leur usage, leur stockage, comme pour les armes chimiques, biologiques et nucléaires?
Alors, le parallèle est un peu...
Quoique nucléaire, c'est pas interdit, malheureusement.
Oui, la prolifération. Mais bon, le parallèle est encore un peu flippant, entre guillemets. Mais,
on parle de sécurité, on peut se permettre.
Oui, oui. Mais bon, on ne peut pas encore faire sauter une ville pour l'instant, enfin presque. Presque avec un zéro day, mais c'est vrai que les zéro day, bon voilà, ça peut être considéré effectivement comme une arme numérique dans le sens où voilà, vous avez quelque chose pour lequel il n'y a pas de solution, mais au final, si vous faites un parallèle avec réalité, vous pouvez faire pas mal de dégâts avec quelque chose qui n'est pas un zéro day, hein. Pour preuve, WannaCry, ce week-end, c'était depuis bien longtemps plus un zéro day, puisque la vulnérabilité était corrigée au mois de mars par Microsoft. Donc, à l'heure
elle
de
a,
WannaCry.
Elle a été divulguée il y a début février, si je me souviens bien. Et Microsoft a pondu en catastrophe. Donc, ils ont sorti, sans le dire, en fait, un correctif.
Alors, en fait, c'est plus subtil que ça.
C'était pas documenté.
C'est que, quand ça a été publié et que ça a été diffusé sur Internet, bah, il s'avérait que, bizarrement, Microsoft avait déjà corrigé. Donc, ils avaient été au courant avant la publication au grand public de ces outils-là. Donc, à l'heure de WannaCry, ce n'est plus un zéro day. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de zéro day pour faire autant de dégâts que peut l'avoir fait peut-être WannaCry. Donc, c'est comme, vous allez chez Leroy Merlin, vous prenez un marteau, vous tapez sur les types dans la rue. Bon, bah voilà, vous avez le droit d'acheter un marteau ou une tronçonneuse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous balader avec un 9 mm. Hein. Donc, effectivement, si vous avez un 9 mm, vous allez être plus efficace. Et puis, ça va être plus difficile de contrer un 9 mm qu'un marteau. Quoi. C'est un peu pareil.
Alors, justement, puisque vous en parlez tout à l'heure, donc Microsoft était un petit peu au courant, justement, de cette faille de sécurité. Un petit peu en avance. Ils ont sorti d'ailleurs un article sur leur site officiel qui était assez violent hein, envers la NSA par l'un de leurs responsables informatiques. Le fait qu'en France, les armées et l'éducation nationale aient des contrats d'équipement avec Microsoft, qui semblent collaborer avec la NSA hein, en temps normal, est-ce que finalement ce n'est pas un risque vis-à-vis d'un allié qui semble avoir des outils qui sont directement dirigés contre l'ensemble du monde?
Alors après, c'est la loi du marché. On est obligé de faire avec, puisque les alternatives, je dirais, françaises ou européennes, n'ont jamais vraiment émergé. Après, l'avantage qu'on a, c'est que malgré tout, en France, il reste pas mal de compétences techniques très fortes. Et puis, au niveau du gouvernement, au niveau de l'ANSSI, des gens qui sont extrêmement compétents pour pouvoir connaître extrêmement bien tous ces systèmes et donc pouvoir les défendre le mieux possible. Donc, il faut plutôt essayer de dire, de toute façon, c'est une vue de l'esprit de se dire qu'on va faire un Microsoft français ou européen. C'est pas possible, hein, c'est que pas.
On a déjà fait trois émissions là-dessus.
Donc voilà, donc
jusqu'au clavier, voilà, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Effectivement, le clavier, votre téléphone, il y a rien, il y a quasiment, enfin, malheureusement, bon, si, il y a encore quelques industries françaises qui tiennent la route en informatique, mais n'empêche que la majorité des trucs sont fabriqués à l'étranger, donc, au sens large, hein. Et même les Américains, hein, dans leurs propres composants, ont des trucs fabriqués en Chine, etc.
Oui, eux-mêmes disent qu'ils ont eux-mêmes peur de leur routeur.
Ouais, voilà, c'est qu'il y a un moment, il y a rien qui est fabriqué entièrement du moindre ligne de code, que ça soit dans un firmware ou dans un OS ou quoi que ce soit, qui n'est pas fabriqué en dehors du pays dans lequel il est utilisé, quoi. Donc la solution, c'est comme tout, faut faire avec. C'est un environnement qu'on doit comprendre, maîtriser, et le plus important, en tout cas de mon point de vue, c'est d'avoir les compétences dans le pays, dans la société, dans le terme entreprise, qui ont justement cette capacité d'avoir une vision claire, nette de tout ça, savoir où peut se trouver des vulnérabilités et se dire, bah, évidemment, peut-être qu'un type une autre entreprise ou un État a un zero day ou a une vulnérabilité que je connais pas. Donc, comment je fais pour me protéger ou pour diminuer l'impact d'une vulnérabilité que je connais pas? Et c'est ce qui fait que vous arrivez peu ou prou à mettre une sécurité en adéquation, je dirais, avec les risques, que ce soit des risques au niveau d'une entreprise ou d'un État, quoi.
Et d'un autre côté, on imagine que les GAFAM qui travaillent avec de la location de services sur le cloud sont très motivés à faire très attention en termes de sécurisation. Est-ce que, malgré tout, on peut leur faire confiance?
Bah, là encore, c'est pareil, je dirais. Il faut quand même se dire que c'est dans leur intérêt. C'est vraiment dans leur intérêt. Bon, malgré tout, même pour Microsoft ou ces grosses entreprises, donc c'est sûr, on les voit comme toujours étant le mal absolu. Alors, loin de moi de penser que ce sont des anges, hein, bien évidemment. Mais malgré tout, ils ont quand même intérêt à ce que leur système soit sécurisé. Microsoft, enfin, en 15 ans, le niveau de sécurité, c'est même pas, il n'y a rien à voir. C'est incommensurable.
Windows XP SP2 avait amené énormément de choses.
Ah oui, j'ai connu du NT même avant, et on voit maintenant du Windows 10, on a beau dire. Maintenant, Microsoft a un système, on va dire, sécurisé, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Donc, pour les Amazon, les Google ou les Microsoft avec tout ce qui est cloud, c'est dans leur intérêt au final d'avoir des systèmes qui soient efficace, efficient, performant et sécurisé. Parce qu'il y a un moment, il y a la loi de la concurrence aussi. Il suffit qu'il y en ait un qui arrive à montrer que son système est plus sécurisé. Et de toute façon, il y aura toujours des auditeurs, des sociétés qui les testeront pour le compte de leurs propres clients. Et au final, les clients qui s'intéressent à la sécurité, et malgré tout, en tout cas dans les grosses entreprises, c'est un facteur assez important, ils iront au plus sécurisé. Donc économiquement, c'est plus intéressant qu'ils soient, je dirais, du côté sécurisation. Donc c'est pas pour autant que leur truc est inviolable, loin de là.
Oui, bien sûr. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile sur Radio FMR, et nous interviewons en ce moment Eric Detoisien, qui est spécialiste en sécurité informatique offensive. On a commencé à parler, je vais dire, des fameuses grandes agences en trois lettres et des cinq sœurs. Entre la Hacker Team et Amesis, qui sont des sous-traitants d'État en matière de surveillance globale, est-ce que ces barbouzes privées n'ont pas rendu la situation encore plus compliquée sur les cyberarmes ?
Compliqué, en fait, ça va être des points de vulnérabilité pour ces agences, ces États, peu importe, pour la simple et bonne raison, qui vont concentrer en un même lieu, je dirais, des outils très intéressants. Donc moi, je fais le parallèle pour avoir travaillé dans une banque il y a quelques années avec finalement les transporteurs de fonds. Au final, soit vous vous dites, vous allez attaquer chacun des distributeurs automatiques de billets, donc ça va vous prendre du temps, vous avez le temps de vous faire attraper entre deux distributeurs, soit vous dites, j'ai plutôt attaqué le type qui gère les fonds et qui éventuellement a même toutes les clés de tous les distributeurs automatiques de billets de plusieurs banques. Et en général, les gens qu'on a un peu réfléchi, vont s'attaquer à ce genre d'entreprise. Et donc, effectivement, Hacking Team a eu des problèmes, d'autres ont eu des problèmes. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un point de passage à forte valeur ajoutée. Et donc, ça vaut le coup de s'attaquer à ces entreprises. Après, ce qu'il faut voir, c'est que si ces États, ces entités, ces services font appel à ces entreprises, c'est qu'elles ont des compétences. En informatique, comme dans tous les domaines où il y a besoin d'une compétence extrêmement pointue, eh ben on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Donc mécaniquement, voilà, il y a des sociétés qui concentrent aussi les compétences, et c'est ce qui fait que finalement on fait appel à eux, quoi. Donc d'un côté, c'est intéressant, puisqu'effectivement ça permet à des petites entreprises très compétentes de vivre et de perdurer un peu et de faire avancer les choses. Mais à côté, si elles-mêmes n'ont pas mis en place ce qu'il fallait pour se protéger, ça pose des vrais problèmes, quoi. Mmh. C'est déjà arrivé et ça arrivera sans doute encore d'autres fois.
Oui, et puis d'un autre côté, il y a par exemple, on a parlé d'un autre virus à une époque, s'appelait Stuxnet, donc un ver qui était directement qui visait directement les usines d'enrichissement d'uranium iranienne, qui était prévu pour les machines-outils équipées d'un certain type de moteurs à commande numérique, et un virus qui a débordé en fait jusqu'à notre continent. Donc finalement, est-ce que ces armes numériques sont-elles devenues trop efficaces pour ne pas être à double tranchant?
C'est un peu la perte de contrôle de son arme, en fait. Hein. C'est que, en fait, comme ce sont des systèmes qui ont été développés pour se propager de manière un peu autonome, finalement, si vous n'avez pas pensé à tout, ou si il y a quelque chose qui déraille dans votre processus d'attaque, finalement, vous perdez un peu le contrôle de tout ça, et il va se répandre un peu à des endroits imprévus. Donc, ça devient des dommages collatéraux assez significatifs. Hein. Donc, c'est un peu, vous avez un virus que vous voulez inoculer à une seule personne, et puis finalement, y a un moment, vous prenez le pied dans le tapis, la fiole tombe par terre dans une gare, et puis voilà, quoi, ça se passe mal. Mmh. Là, c'est un peu ça, c'est manque de contrôle, quoi. Mmh.
Et quand on voit l'impact qu'a eu WannaCry, puisque effectivement ça a fait beaucoup de bruit, pour l'instant on n'a pas du tout les chiffres exacts en termes de dégâts effectués au niveau économique. Par contre, avec les hôpitaux qui ont été paralysés au Royaume-Uni, est-ce qu'on peut craindre qu'on ait eu le premier mort civile collatéral causé par un virus informatique? Ou est-ce qu'il a déjà eu lieu?
Moi, je pense que, après, il y a toujours des histoires. Il y a eu pas mal de choses sorties ces derniers temps sur les attaques sur des pacemakers ou des pompes à insuline, etc. Alors, est-ce qu'il y a eu des morts avérées? Honnêtement, je ne sais pas. À ma connaissance, non. Là, WannaCry, paralysé. Je ne sais pas si le fait de bloquer votre dossier patient, ça peut apporter atteinte à la vie. Je me rends pas vraiment compte parce que j'ai jamais travaillé dans un hôpital, mais bon. Après, ce qui est important de voir, hein, c'est que là encore, histoire qu'on fasse pas de confusion, WannaCry, ça reste finalement une vulnérabilité qui s'est propagée parce que les systèmes n'étaient pas patchés. Mmh. Ce n'est pas Stuxnet, c'était différent parce qu'effectivement, parmi la charge utile qu'il y avait dans Stuxnet, il y avait des 0D. Donc là, c'est complètement différent.
Il y avait des 0D, en plus ça s'attaquait à du matériel qui est tellement spécifique que trop peu connu pour auditer. Ouais.
Bon, il y avait quand même aussi des 0D Windows, il me semble. Mais voilà, c'était du 0D. Donc là, finalement, vous dites, je suis patché, machin, j'ai problème. WannaCry, on est quand même dans quelque chose de différent parce que théoriquement, vous aviez quasiment 2 mois pour vous mettre à jour. Donc, voilà, l'histoire est différente. On n'est pas sur une attaque étatique qui aurait débordé, qui a fait des dommages collatéraux. C'est finalement quelqu'un ou quelques-uns qui se sont dit, voilà, il y a une vulnérabilité qui est extrêmement intéressante. Et c'était le cas. Hein. Il s'avère que et la vulnérabilité, elle est bien identifiée. Et il existe déjà, on appelle ça un payload, ou finalement un outil qui est déjà opérationnel. J'ai juste à le prendre, à l'encapsuler dans quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire là, dans ce cas, le fait de pouvoir se propager et de chiffrer et d'en faire un ransomware, donc pour chiffrer les fichiers et demander une rançon. Mmh. Et voilà, donc en fait, c'est surtout que c'était tout prêt, quoi. Finalement, le type qui a lancé ça, il avait, il avait juste le tour à faire, quoi.
Ouais, d'ailleurs, quand on voit comment votre confrère anglais MalwareTech a accidentellement ralenti la propagation rien qu'en réservant un nom de domaine, est-ce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir eu des développeurs qui étaient peu futés?
Ben, je sais pas, c'est un peu surprenant en fait quand il y a ce genre de choses. C'est plutôt quand vous dites vous mettez ça en place parce que vous avez peur que votre créature vous échappe et que vous laissez, là, ils vont appeler ça un kill switch, vous dire voilà, si ma créature m'échappe, et ben j'ai un petit bouton qui fait que ça désingue la créature. Mmh. Donc le gars l'a trouvé, alors enfin tant mieux, je dirais, mais bon, n'empêche qu'il a pas fallu longtemps pour que des types se disent ben on va refaire la même chose, mais en plus on va enlever le kill switch. Donc bon voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est les gens ils voient un truc, c'est facile, ils réutilisent. Il y a quelqu'un qui arrive à stopper, ils comprennent comment ils l'ont stoppé, puis ils ressortent une version 2, puis ça va traîner pendant des mois et des années, tant qu'il y aura des systèmes non patchés.
Oui, parce que là, on en est déjà à la version 3, hein, d'après ce que l'on sait, au moment où on enregistre, donc lundi soir. D'un autre côté, il y a aussi tout ce que l'on appelle l'Internet des objets, l'IoT, sur lequel il y a du code qui n'est pas très sécurisé, voire mis à jour. Et avec la masse d'objets disponibles, eh ben, ça en fait un sacré volume, capable quasiment de faire tomber un très gros prestataire comme OVH. Quelle responsabilité pour les constructeurs justement de ce matériel, de ce logiciel qui est très rarement mis à jour et qui ne respecte pas, je veux dire, les principes de base en termes de sécurisation?
Bah là encore, on en revient à un problème économique. Hein. Est-ce que il y aurait des gens qui seraient prêts à payer finalement la sécurité, ou est-ce qu'il y aura des entreprises qui seraient prêtes, je dirais, à réduire leurs marges pour pouvoir ajouter de la sécurité? Tout est là en fait. Hein. Pourquoi tout ce qu'il y a, les caméras embarquées, tout ce qui est embarqué, pourquoi il n'y a pas de sécurité? Parce que ça coûte cher. Donc, là, c'est un problème purement économique. Hein. J'aurais même tendance à dire que c'est limite pas de la compétence. C'est juste un moment où ils disent « Ok, bah, vous me développez un système rapidement, pour pas cher. » Et puis voilà. Et donc, les gens le font. Et il s'avère qu'effectivement, la majorité sont complètement troués pour ces raisons. Sauf que maintenant, c'est en réseau, c'est accessible sur Internet. Et puis, on peut en faire une espèce de botnet qui peuvent servir effectivement à faire tomber par déni de service des gros opérateurs, quoi. Mais voilà, c'est une responsabilité effectivement, mais qui c'est qui va lâcher sa marge, ou enfin qui c'est qui va payer en fait, hein, on est toujours là, hein, qui paiera? Est-ce que c'est le client qui paiera la sécurité, ou est-ce que c'est finalement le constructeur qui sera amené à un moment à finalement inclure la sécurité par défaut parce que ses clients le demanderont? Tant que les clients ne demanderont pas, ils le feront pas.
Donc, on en reste au même paradoxe que d'habitude, c'est-à-dire si on veut de la qualité, il faut payer.
C'est un peu ça, ou au moins il faut le demander, c'est dire bah, ok, à un moment, on a un peu la même situation que plein d'autres sujets, c'est le choix du consommateur. Soit je dis bah, ok, j'ai le choix entre A et B, B sécurisé et peut-être un tout petit peu plus cher, donc je vais aller chez B, ou bah, peut-être que B était intelligent, malin et a réussi à faire quelque chose de sécurisé pour le même prix, et donc mécaniquement. Et eh ben les gens vont s'orienter vers B, et puis si A ne veut pas mourir, et eh ben il fera de la sécurité.
Est-ce que finalement, ça va être la dernière question avec WannaCry, la bonne nouvelle c'est que enfin les directeurs informatiques vont pousser les mises à jour le plus vite possible au sein de leur parc?
Bah j'espère, mais je pense qu'effectivement ça va être encore une petite marche supplémentaire pour se dire bah voilà, effectivement j'ai plus intérêt à mettre à jour rapidement. Ça va permettre aux équipes sécurité, aux équipes de prod de dire bah vous voyez ce que je vous explique depuis des années que les mises à jour c'est important, bah là ils ont juste à dire bah vous voyez, hein, ils ont pas besoin de s'expliquer, ils diront bah WannaCry, regardez 20h et puis vous verrez. Après l'autre point important, l'autre conséquence qui est assez intéressante aussi, c'est étant donné que c'est un ransomware, un cryptolocker, enfin bref, on va pouvoir s'en servir pour dire, bah, vous voyez, faire des backups, c'est sympa aussi. Faire de l'archivage, c'est sympa. Parce que si vous voulez pouvoir récupérer tous les fichiers chiffrés, il vaut mieux avoir des backups. Et éventuellement, pas sur le même réseau, pas sur le même système, pour éviter que ces mêmes backups ou archives soient elles-mêmes chiffrées.
Et d'ailleurs, puisque vous parliez justement du fait que c'est un ransomware et qu'on a les trois identifiants des comptes Bitcoin sur lesquels sont payés justement ces rançons, on en est actuellement, après plus de 72 heures d'activité, à 40 000 euros de payer.
Oui, c'est un échec.
C'est ridicule.
Quoi. C'est un échec, ouais. C'est
ça risque de leur coûter n'importe quelle entreprise qui veut vraiment faire tomber l'équipe. Il mettra nettement plus avec des tueurs à gages.
C'est hallucinant. Ça coûtera plus cher en voyage pour se barrer du pays où ils sont. Je ne sais pas où ils sont, mais okay, 30-40 000 euros, c'est la honte. Quoi. Franchement, c'est la honte. Quoi. Donc, il y a un truc qui a foiré. Quoi.
Et donc, en plus, ils proposaient des tarifs discount pour ceux qui ne pouvaient pas payer. C'est bête. Ça partait d'un bon sentiment commercial.
Ça coûtera plus cher, à mon avis, à mettre en place des solutions d'archivage pour se dire que la prochaine fois, on ne sera pas payé. Quoi.
Avant de vous libérer, et puisque nous avons donc un nouveau président qui est élu sur, selon ses détracteurs, il veut transformer la France en start-up, est-ce qu'il y a une nation qui propose, à votre connaissance, une politique de sécurité informatique qui, en soi, est exemplaire ?
Ouais, non, parce que c'est, pour moi non, parce que une entité en tant que telle, c'est pareil, c'est une vue de l'esprit, quoi. Vous voyez, un État, quel qu'il soit, il est composé d'une quantité de structures d'entités qui est énorme, et avec des, il y a rien qui est unifié, quoi. Il y a plein de systèmes, il y a plein de systèmes d'information, plein d'OS, tout ça. Enfin, rien n'est uniforme, rien n'est homogène. Donc déjà avoir la volonté, c'est déjà une bonne chose, mais se dire que j'ai un État sécurisé, ça n'existe pas, quoi. Alors, je sais pas, peut-être la Corée du Nord, et encore même pas, parce qu'on a bien vu qu'ils avaient des problèmes de sécurité aussi, quoi.
Ouais.
Donc la complexité maintenant fait que c'est extrêmement compliqué d'arriver à quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut mettre les moyens. Enfin, encore une fois, on revient toujours. Au nerf de la guerre, il faut des moyens pour sécuriser un pays comme la France. Il faut des moyens. Et l'État, à ma connaissance, ces dernières années, a mis pas mal de moyens. Et peut-être que le nouveau président appuiera encore sur ces aspects et donnera les moyens, je dirais, aux bonnes administrations et aussi à l'éducation. Parce que le gros problème qu'il y a, c'est les compétences. Et s'il n'y a pas de compétences, ou du moins si on n'arrive pas à retenir celles qu'il y a, que beaucoup de compétences partent. Alors, c'est un autre sujet, hein, mais tout est là. Hein. C'est la sécurité, c'est comme beaucoup de métiers, comme la plupart des métiers, ça reste des hommes, des compétences. Si vous n'avez pas les hommes au sens large, hein, les hommes et les femmes, bien évidemment, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas formé les gens et à les faire rester dans votre entreprise, dans votre pays, eh ben, ça n'arrivera pas à grand-chose. Quoi. Ça n'amènera pas à grand-chose.
Éric de Toisien, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir accordé votre temps. Donc vous êtes CEO d'Ambionic Security et spécialiste sécurité offensive. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir.